Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français et de Fusier depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La revitalisation de 15 lacs nécessite d'un grand fonds. La Commission électorale étrangère, Kuching, est optimiste quand on fait que les électeurs seront plus de 70%. L'Indonésie refuse de reconnaître la souveraineté israélienne sur le Golan. Selon la Compagnie nationale d'électricité ou PLN, les véhicules électriques deviennent une nouvelle ère pour l'Indonésie. Des observateurs étrangers de 33 pays participeront à surveiller de l'élection 2019. Utiliser la monnaie locale, le commerce entre l'Indonésie et la Thaïlande augmente jusqu'à 4 fois. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a organisé une réunion de coordination pour sauver les lacs prioritaires au niveau national afin d'atteindre l'objectif du plan de développement national à moyen terme 2015-2019. Après la réunion du lundi 25 mars 2019 à Manggala Wanakbati, Jakarta, le directeur général du contrôle des bassins versants et des forêts protégées, M. Ibe Putra Partama, a déclaré que la revitalisation de 15 lacs endommagés nécessite un grand budget.
Sebenarnya banyak danau kita yang rusak, tapi yang 15 itu yang amat rusak. Dana yang diperlukan.
En fait, beaucoup de nos lacs sont endommagés, mais les 15 sont très endommagés. On a besoin de beaucoup de fonds. Donc, ce qui est arrangé est un plan de gestion de lacs. Dans celui-ci, il y a une table. Ce qui est arrangé est un plan de gestion de lacs. Dans celui-ci, il y a une table et le problème, c'est la tâche de quel secteur. Les fonds proviennent de ce secteur. Comme par exemple la tâche du ministère des Forêts est de réparer le bassin versant en amont. Nous cherchons un budget pour cela. La tâche du ministère des Travaux publics est différente. Monsieur Putra Partama a déclaré que le ministère de l'Environnement et des Forêts ont également collaboré avec 11 autres ministères, entre autres le ministère des Travaux publics, le ministère des Transports, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Agriculture et l'Agence nationale de planification pour le développement, ou BAPENAS. Le lac de Rawapening à Semarang, qui fait partie de la liste des 15 lacs prioritaires, sera utilisé comme lac pilote de revitalisation. Les citoyens indonésiens inscrits sur la liste des électeurs éligibles atteignent les 2,058,191 dans 130 pays. La Malaisie est le pays qui compte le plus d'électeurs indonésiens à l'étranger. La Commission électorale étrangère, ou PPLN, Kuching en Malaisie, est optimiste que le nombre d'électeurs participant aux élections générales 2019 atteigne plus de 70%. Le membre de PPLN Kuching, M. Subroto Umar, a déclaré à la Voix de l'Indonésie. Depuis 2018, sa parti avait organisé des élections législatives dans toutes les régions du Sarawak en Malaisie, où se trouvaient des citoyens indonésiens et des travailleurs migrants indonésiens.
untuk melayani seluruh Sarawak ini dengan demikian dukungan dari KPU.
Pour servir tous les électeurs de la province de Sarawak en Malaisie, PPLN Kuching est soutenu par la Commission électorale générale et par le personnel de PPLN. Je suis sûr que PPLN Kuching peut maintenir son record de 70% et qu'il est possible que ce soit plus que cela. Monsieur Subroto a déclaré que la participation élevée à Kuching est suivie au système électoral de 2019 qui s'améliore. Un certain nombre de fonctionnaires qui servent les électeurs augmentent de plus en plus. Récemment, le consulat général d'Indonésie à Kuching a élaboré des directives techniques pour des groupes du comité électoral étranger à Kuching. Les directives techniques sont organisées pour donner des informations sur la manière dont le processus de vote est conduit à Kuching. Le gouvernement indonésien a refusé de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau de Golan. L'Indonésie reconnaît toujours le plateau de Golan comme partie inséparable du territoire souverain de la République de Syrie, actuellement occupée par l'Israël après la guerre de 1967 entre Israélo-Arabes, et c'est ce qu'a annoncé le ministère indonésien des Affaires étrangères dans un communiqué publié mardi. L'Indonésie a déclaré que sa position actuelle était en accord avec les principes de charte des Nations Unies concernant le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays. L'attitude de l'Indonésie est également conforme aux divers éléments contenus dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au plateau de Golan, entre autres les résolutions 1242 en 1967, résolution 338 en 1973 et 497 en 1981. Lundi, le président des États-Unis, Donald Trump, a officiellement reconnu le plateau de Golan comme territoire israélien. La décision de Trump a attiré des critiques et des protestations, notamment de la part de la Palestine et de la Ligue arabe. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. La Compagnie nationale d'électricité, ou PT, Perusahaan Listrik Negara, PLN, a déclaré que l'existence des véhicules électriques tels que la voiture et le moto est devenue une nouvelle ère pour l'Indonésie dans le développement technologique. Cela a été dit récemment par le directeur régional de Java Occidental, M. Haryanto VS, en mars de l'activité du programme PLN Enseigne 2019, Illuminer la nation avec l'éducation, qui a eu lieu au lycée en Surakarta, Java Central. Dans la production de véhicules électriques, PLN augmentera le contenu local. Selon M. Haryanto VS, actuellement, PLN produisait des moteurs électriques Gesit comme un test et le contenu local qui sera utilisé atteint plus de 80%. Le programme gouvernemental soutenait l'engagement de l'Indonésie dans l'accord de Paris, entre autres sur le changement climatique en augmentant le développement des énergies renouvelables. Monsieur Pramono Ubaitantowi, le commissaire de la Commission électorale générale d'Indonésie, ou KPU, a déclaré que le processus des élections générales 2019 sera surveillé par des observateurs électoraux de divers pays. KPU a invité des organisateurs d'élections de 33 pays qui représentent d'ambassades de 33 pays d'amis et 11 organisations non gouvernementales ou des observateurs internationaux. Cité par Kompas.com, M. Pramono à Jakarta récemment a déclaré que la Commission électorale générale d'Indonésie a également coopéré avec des organisations non gouvernementales et d'universités indonésiennes dans le processus de surveillance des élections. Tous les observateurs électoraux feront leur fonction du 15 au 18 avril. La Banque indonésienne a révélé que la valeur commerciale entre l'Indonésie et la Thaïlande, qui utilisait la monnaie locale, a atteint 121 milliards de rupiah de janvier à février, soit quadruplé par rapport à la même période en 2018. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, M. Perry Warjio, a déclaré récemment dans une déclaration écrite à Jakarta que le règlement en monnaie locale était un règlement des transactions commerciales effectuées sur le territoire d'un pays. L'Indonésie et la Thaïlande ont appliqué pour la première fois la coopération en matière de règlement en monnaie locale en décembre 2017. Le règlement en monnaie locale a été mis en œuvre afin de réduire la dépendance de chaque pays à l'utilisation du dollar américain et également d'accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau de Golan déclenche un conflit plus large au Moyen-Orient ». La déclaration du président des États-Unis, Donald Trump, qui reconnaît le plateau de Golan comme territoire israélien, a déclenché des protestations, accompagnée du premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a visité Washington, a clairement indiqué que les États-Unis reconnaissaient le plateau de Golan comme une zone de souveraineté israélienne. La reconnaissance des États-Unis, symbolisée par la signature lundi d'un décret par lequel les États-Unis reconnaissent la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, est très bien accueillie par Netanyahu, qui a immédiatement provoqué le rejet et la critique. La Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Pologne ont simultanément refusé. Le mardi 26 mars, les cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont exprimé leurs inquiétudes face à la déclaration de Donald Trump. Les cinq pays ont souligné qu'ils ne reconnaissaient pas que le plateau du Golan est le territoire israélien. En fait, les cinq pays européens ont également déclaré ne pas reconnaître la souveraineté d'Israël sur le territoire du Golan occupé par l'Israël depuis 1967. Comme on le savait, en 1967, après une guerre de 6 jours avec la Syrie, l'Israël avait annexé le plateau du Golan et en 1981 avait effectivement annexé cette région. Le refus de la déclaration unilatérale de Donald Trump concernant le plateau du Golan a été immédiatement communiqué par la Russie et la Chine. Les deux pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont indiqué qu'ils discutaient immédiatement des revendications unilatérales des États-Unis lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux pays semblent incapables d'accepter aucune raison de Donald Trump. L'une des raisons de la déclaration controversée est que, pour les États-Unis, la reconnaissance est une forme d'opposition au président syrien Bachar al-Assad et à l'Iran, qui sont des partisans de al-Assad. L'Indonésie s'oppose fermement aux décisions unilatérales des États-Unis. L'Indonésie a toujours soutenu l'indépendance des Palestiniens depuis le début. La déclaration de Donald Trump, qui exprime sa partialité envers l'Israël, est non seulement controversée et très unilatérale, mais elle a également provoqué de nouvelles tensions, notamment au Moyen-Orient. Les pays du Golfe ont manifesté leur opposition. Très probablement, le conflit sera plus grand au Moyen-Orient à la suite de la déclaration de Donald Trump. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir une audience non seulement pour réagir à la décision des États-Unis, mais également pour la rejeter. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia.
Chers lecteurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le 27 mars 1968, Soeharto est inauguré en tant que deuxième président d'Indonésie. Le 27 mars 1968, l'Indonésie avait officiellement un nouveau président, Suharto. Auparavant, le 12 mars 1967, Suharto avait été nommé président par intérim de l'Indonésie lors de la session extraordinaire de l'Assemblée consultative provisoire du peuple, MPRS. Cette nomination a eu lieu après que le MPRS a rejeté le discours du président Sukarno sur la responsabilité intitulé Nawaksara le 17 février 1967. Suharto avait accédé au pouvoir après avoir obtenu un soutien solide de la part des membres du MPRS. L'événement a marqué la fin de la période de l'ordre ancien et l'établissement d'un jalon du régime du nouvel ordre. L'autre information est sur l'avion Pan Am du vol 1736 entre en collision avec le vol KLM 4805. La collision de deux gros avions a réaction à l'aéroport de Los Rodeos aux îles Canaries le 27 mars 1977 reste le pire désastre de l'histoire de l'aviation mondiale. Un total de 582 passagers et membres d'équipage ont été tués dans la collision. Les deux Boeing 747 qui sont entrés en collision n'étaient pas censés de se trouver à l'aéroport qui se trouve à Tenerife, en Espagne. Les vols Pan Am 1736 et KLM 4805 ont été détournés vers Los Rodeos suite à l'explosion d'une bombe à l'aéroport de Gran Canaria en Espagne qui était leur destination. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement le 27 mars 2009, l'incident de la digue Situ Gintung. Situ Gintung est un petit lac artificiel construit entre 1932 et 1933. Ce lac artificiel est situé dans le district de Ciputat Est, dans la ville de Tangerang du Sud, dans la province de Banten. C'est en fait un canal d'irrigation. Après l'indépendance, le canal a changé de fonction pour devenir un réservoir de conservation du tourisme. Le matin du 27 mars 2009, le digue Situ Gintung de 30 mètres de large, d'une hauteur de 6 mètres, s'est effondré car il n'était plus en mesure de supporter le rejet d'eau dû aux fortes pluies qui avaient continué à tomber un jour plus tôt. Environ 2,1 million de mètres cubes d'eau ont touché les colonies situées sous le digue et ont fait 99 morts. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kenang masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika kau hadir kembali di hadapanku. Kurasakan saat pertama ku kecup keningmu hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangatan mesra rasa cintamu. Kini kita kembali bersama dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa. Saat itu, namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi karena ada satu garis batas yang tercipta hingga tersenyum saja. Ku terkenang masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika ku hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangat dan mesra rasa cintamu. Oh, oh. Dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu. Namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga saja kau sudah ada yang punya, begitu pun dengan diriku.
Kita hanya dapat mengingat
semua kenangan. Begitu pun dengan diriku.
Kita hanya dapat mengingat
semua.
Secretaire, c'était la chanson entre tous les kenangan chantée par Badi Akbar. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulé le premier MRT d'Indonésie est officiellement opérationnel. Chers amis lointains, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre le premier MRT d'Indonésie est officiellement opérationnel. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré dimanche le 24 mars la première phase du transport rapide de masse MRT en zone du rond-point de l'hôtel d'Indonésie, le centre de Jakarta. Outre l'inauguration de l'opération de MRT de la première phase Lebak Bulus Bundaran HI, le président Joko Widodo a également annoncé une construction de MRT de la deuxième phase Bundaran HI Kota qui s'étend sur 8,7 km. À cette occasion, le président Joko Widodo a affirmé qu'avec l'opération de MRT Jakarta, la nouvelle culture de transport de masse à Jakarta est commencée. Par conséquent, il a appelé les citoyens de Jakarta à faire preuve de discipline dans l'utilisation des transports en commun, par exemple en faisant la queue avant de prendre le MRT et d'être ponctuel. En outre, il a rappelé aux personnes de maintenir la propreté en évitant de jeter des déchets à la gare et à l'intérieur de MRT. Le président Joko Widodo a ajouté que dans les 10 prochaines années, MRT est ciblé de pouvoir connecter jusqu'à 231 km à Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi ou Jabodetabek. Le président Joko Widodo a demandé au gouvernement de la province de Jakarta a commencé la construction du corridor Est-Ouest pour MRT en 2019. Dans cette inauguration, le président Joko Widodo a signé une inscription témoignée par le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, le directeur général de MRT à Jakarta, William Sabandar, la ministre des Finances, Sri Mulyani, et le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi. En outre, à cette occasion, le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que le gouvernement était fermement résolu à mettre en place un système de transport rapide de masse à Jakarta. Appuyant la déclaration de Jokowi, le ministre Budi Karya Sumadi assure que la présence de MRT pourrait persuader les gens d'utiliser les transports en commun. Pendant ce temps, la construction de la troisième phase de MRT reliant Cikarang dans la région de Bekasi à Balaraja dans la région de Tangerang sera commencée cette année ou au début de 2020. À la même occasion, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que MRT était un investissement précieux pour Jakarta. Elle espérait que l'inauguration du MRT Jakarta reliant Lebak Bulus au rond-point de l'hôtel d'Indonésie pourrait résoudre le problème d'embouteillage de Jakarta et soutenir la forte mobilité des citoyens de Jakarta. Elle a souligné que MRT Jakarta sera intégré à d'autres modes de transport tels que Transjakarta, Commuter Line et y compris avec la deuxième phase du MRT qui sera construit bientôt. Cerita Ketemu Indonesia de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia. saat ku siap mati untukmu. Kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
Indonesia.
C'était la deuxième chanson intitulée Aku Cuma Punya Hati, chantée par Mita Lestari. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers lecteurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers lecteurs, auditrices, bonsoir. On se retrouve encore dans la rubrique Le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à l'île Flores dans la province de Nusa Tenggara Est. Donc, veuillez rester toujours avec nous à le service mondial de RRI, La Voix d'Indonésie. Serviteur, l'île Flores possède plusieurs endroits touristiques qui représentent la beauté naturelle de l'Indonésie. Dans cette île se trouve la ville Maumere, la capitale de la ville-résidence de Sika. Comme les autres places à l'île Flores, la ville Maumere possède également la beauté naturelle étant très magnifique. Outre par la beauté naturelle, cette ville offre aussi le tourisme religieux et le tourisme culturel. La majorité des habitants ici est chrétien. Alors, pour certaines personnes, cette ville est parfaite pour le tourisme religieux. L'endroit qui est célébré comme un tourisme religieux en ville Maumere s'appelle Bukit Tanjung Kajaluvu. Chers amis, vous pouvez atteindre Maumere en voiture de Labuan Bajo. Il y a beaucoup de locations de voitures pour aller à Maumere. La distance de Maumere vers Bukit Tanjung Kajaluwu est 150 km pour 2 heures de voyage. Vous allez parcourir la côte de Maumere du nord vers l'ouest. Le paysage des collines, des arbres et des pâturages tout verts vont éblouir vos yeux surtout pendant la saison de pluie. En arrivant à Bukit Tanjung Kajaluwu, les touristes peuvent garer leur voiture au bord de la route car il n'y a pas encore de place de parking ici. Pour atteindre le sommet de Bukit Tanjung, les touristes doivent passer d'abord 300 pas d'escalier. Lors de monter les escaliers, veuillez voir le paysage derrière vous. Vous verrez la combinaison de paysage de la mer et le ciel bleu étant très beau. La mer de Tanjung Kajaluwu est entourée par des falaises rocheuses et cela rend plus de beauté à la plage. En arrivant au sommet de Bukit Tanjung, vous allez voir une grande statue de croix. C'est la raison de laquelle on l'appelle aussi Bukit Salib ou en français la colline de croix. Dans certains moments, les chrétiens font des activités religieuses à côté de la statue de croix blanche. Le sable blanc, les falaises rocheuses et la mer bleue deviennent la voûte d'arrière-fond de cette grande statue de croix. Donc, cette place est souvent appelée le parc d'Éden. Bukit Tanjung Kajaluwu est aussi connu par la beauté de la couche du soleil ou le sunset. Par conséquent, cette colline sera plus animée lorsque le début d'après-midi. Chers amis, si vous êtes intéressés à voir la statue de Grand Croix ou bien à participer aux activités religieuses en étant entouré par le beau paysage, veuillez voyager à Bukit Tanjung Kajaluwu, à la ville Maumere, à l'île Flores. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir, dont le sujet est Bukit Tanjung Kajaluwu. On se retrouve encore demain avec des sujets aussi intéressants dans la rubrique Le magazine culturel. Au revoir!
Voice of Indonesia.
Diriku ingin ku tahu arti hidupku, hanya dirimu yang melengkapiku. Engkaulah nafasku, dirimu. Kaulah yang terindah di hidupku. Air matamu lemahkan hatiku yang ada untukmu. Inilah duniaku untuk bersamamu. Dan walau waktu berjalan, aku kan terus bertahan. Pelukku akan selalu menghangatkanmu, dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu. Genggam tanganku bersandar
sadar kepadaku, ingin ku berada di sampingmu sepanjang hidupku. Rasa ini hanya ada saat bersamamu. Bahagia ku dengar canda tawamu, terangi hatiku. Inilah duniaku, untuk bersamamu. Dan walau waktu berjalan, ku kan terus bertahan. Pelukku yang akan selalu menghangatkanmu, takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu. Oh, 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 oh. Jalan, ku kan terus bertahan. Pelukku yang akan selalu menghangatkanmu, dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu.
Chers auditeurs, c'était la chanson The Overtune intitulée Dunia Bersama. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit du vocabulaire indonésien et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Cuaca, ou en français, le météo. Je vais donner un exemple de conversation en bahasa Indonesia entre Tony et le guide touristique à la zone du temple de Prambanan. Il parle de météo.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaire et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Suhu. Suhu. En français, la température. Berapa suhunya? Berapa suhunya? En français, quelle est la température? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. En français, 30 degrés Celsius. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? En français, quelle est la température à Londres en été? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. En français, environ 23 degrés. Quand on parle du temps qu'il fait, quelqu'un veut parfois connaître la température à ce moment-là. Pour connaître la température lorsque vous parlez, demandez berapa suhunya? Berapa suhunya? En français, quelle température? Si vous voulez connaître la température dans une ville ou un pays pendant une saison, demandez berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? Ou en français, quelle est la température à Londres en été? Un autre exemple, berapa suhu udara pada musim dingin? Berapa suhu udara pada musim dingin? En français, quelle est la température à l'air en hiver? Si vous connaissez la température exacte, mentionnez la température, mais si vous n'êtes pas trop sûr, utilisez le mot lebih kurang, ou en français, environ. Comme par exemple, berapa suhunya? Berapa suhunya? En français, quelle est la température? Kurang lebih 23 derajat. Kurang lebih 23 derajat. En français, environ 23 degrés. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Chers amis, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci à tous et au revoir.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Aku geregetan.
Serviteur, c'était la dernière chanson intitulée Gergetan, chantée par Sharina Munaf. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, serviteur, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Serviteur, je vous présente la chanson de la province de Sumatra du Nord, dont le titre est Pulau Samosir ou l'île Samosir. Cette chanson, créée par Nahum Situmorang, raconte d'une expression d'amour pour l'île Samosir en tant que ville natale. Sur l'île de Samosir, il y a beaucoup de poissons, de bétail et de plantes. Bien qu'on soit à l'autre ville, le cœur manquera toujours à la ville natale, l'île Samosir. Certains disent que la chanson Pulau Samosir est l'une des chansons qui représente l'identité du peuple Tapanuli. Ainsi, de nombreux musiciens de Tapanuli et d'autres régions ont chanté cette chanson comme Victor Hutabarat, Vicky Sianipar, Budi Doremi et d'autres. Serviteur, pour savoir cette chanson, voici donc la chanson de Victor Hutabarat intitulée Pulau Samosir. Bonne écoute.
Nisso.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.